nuit de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. L'empereur de Russie rencontre l'empereur des Allemands. En toute discrétion, bien sûr, car aucun journaliste ne pourrait être informé de ce tête-à-tête historique. Aucun journaliste vraiment, pas même Rouletabille, ou sinon Rouletabille, du moins Gaston Leroux lui-même. Le 16 avril 1957, sur la chaîne nationale pour Heures de culture française, Gabriel Reuillard commémorait le 30e anniversaire de la mort de l'auteur du mystère de la Chambre jaune. Le secret de Leroux, peut-être le don exceptionnel de savoir se mettre dans la peau des autres.
C'était un curieux personnage que ce Gaston Leroux. Nous le croisâmes souvent sur nos routes de reportage et nous vîmes souvent nous asseoir côte à côte sur les bancs de justice, non comme délinquants l'un et l'autre, mais comme chroniqueurs judiciaires. Il représentait majestueusement le type du beau gros, rond partout, l'aspect, disait Henri Janson, d'un type qui aurait avalé la sphère. Son poids semblait devoir le fixer à jamais sur quelques sièges dans l'immobilité. Pourtant, il était capable de se démener mieux que beaucoup d'autres dès que sa curiosité le poussait. Ce fut ainsi que, comme l'un des héros de ses romans, qui est d'ailleurs lui transposé, le fameux Rouletabille, il parcourut à peu près toute la Terre pour rendre compte de quelques importants événements, le monde commençant à bouger dangereusement. Né à Paris le 6 mai 1868, il passe une grande partie de son enfance en la ville d'Eux, son père, entrepreneur de travaux publics, ayant été chargé d'y restaurer le château sur les plans de Viollet-le-Duc. Il fait ses études au collège, il est presque toujours premier, il achève sa scolarité à Caen, seul candidat de sa session auquel fut attribuée la mention « bien ». Licencié en droit à Paris, il est inscrit au barreau de la cour d'appel, mais cette activité ne le tente qu'à moitié. Il rêve de déplacement, il voudrait devenir grand reporter. Rouletabille couve déjà dans ce gros garçon pétulant. Il débute dans la presse à l'Écho de Paris. Il passe comme chroniqueur judiciaire au quotidien Paris, puis au Matin. Notre grande et toujours regrettée camarade Séverine le peint ainsi vers 1892. Tout rond, tout jeune, la figure poupine encadrée d'une barbe frisée châtain doré moussant autour d'un large sourire, les yeux pétillants de malice derrière les verres du lorgnon et dont le mélange de timidité vaincue et d'irrévérence réfrénée interloquait assez ceux des doyens de la presse judiciaire qui, au contact des magistrats d'antan, avait gagné un peu le mal de la solennité. Elle le montre même dans un banquet, chantant une chanson de son cru, piquante à souhait, délicieusement subversive. Plus l'auteur témoignait d'audace, plus il devenait écarlate, rougissant comme une jeune fille jusqu'aux oreilles de sa hardiesse et de son succès, affolée à un tel point par les bravos que, perdant la tête et son lorgnon, il envoyait des baisers au plus vénérable des chers maîtres. Il avait alors 22 ans. Faut-il parler de la période intermédiaire d'homme d'affaires entre celle d'avocat, à 18 ans il prononce sa première harangue à la conférence Potier, et celle de journaliste? Ma foi oui. Elle est, comme on dit, courte et bonne. Il vient justement d'hériter d'un joli million or. Il achète aussitôt 3 caboteurs chargés de peau. Il les revend avec un énorme bénéfice, mais le soir même, claque tout dans une infernale partie de poker avec son vendeur. La démangeaison d'écrire l'a déjà saisi. La Lyre universelle publie son premier poème, un sonnet où il glorifie Lamartine. Puis, c'est le tour d'une prose qu'il intitule au sens le plus exact « Mon premier article », paru dans « Lutèce », qu'il retrouvait soudain, après en avoir perdu jusqu'au souvenir, en feuilletant les revues peu achalandées, dormant sous les galeries de l'Odéon. À l'Écho de Paris, il célèbre Jeanne, qui deviendra au plus tard, bien plus tard, la principale interprète de sa pièce, Alsace. Comme chroniqueur judiciaire, il fait l'apprentissage de la gymnastique du métier dans le procès de l'anarchiste Vaillant. Le journal bouclant à 5h de l'après-midi, le débutant n'a que le temps de fixer quelques phrases au vol qu'un cycliste vient lui arracher au fur et à mesure. Au matin, même rubrique, même procès à peu près, celui de l'anarchiste Henri. C'est en 1894 que, devenu chef des informations, il parvient à s'asseoir dans un fauteuil presque directorial. S'asseoir pour mieux bouger à l'occasion. Le voilà en Russie aux premières pétarades de la Révolution. Il peut témoigner des massacres des Tartares et des Arméniens et du gigantesque incendie de Balakhani. C'est dans les trains, dans les bateaux qu'il écrit ses pièces, ses romans. Le premier acte de la maison des juges entre Southampton et Madère, le deuxième entre Marseille et Port Saïd, le troisième à Saint-Pétersbourg après les massacres de Moscou. Il court après tous les grands de la terre. Il rate Chamberlain au temps de la guerre des Boers et raconte plaisamment comment. Il ne rate pas Philippe d'Orléans, prétendant au trône de France dont le père vient de décéder, 1894, parce que c'est presque un copain, révérence parlée, puisqu'ils ont jadis joué ensemble au lycée 2. En 1904, les Japonais attaquent brusquement la flotte russe à Tchemulpo, dans les environs de Séoul. Le roux s'y précipite. Ayant rendu compte des opérations, il fait un petit crochet par l'empire des tsars avant de regagner Paris, l'empereur des Russes devant rencontrer l'empereur des Allemands sur le yacht de Guillaume II, l'étoile polaire. Comment collait-il la nouvelle tenue secrète? Tout simplement parce que, fin gastronome, ayant sa table chez Maxime, chez Paillard, il vivait dans les meilleurs termes avec les cuisiniers du tsar, qui, eux, plus sûrement encore que les diplomates, étaient renseignés. On n'en finirait pas de rappeler tous les faits importants de cette carrière de coureur à l'information, témoin de tant de choses vues. Doublé du romancier de Rouletabille chez le tsar, de Un homme dans la nuit, du roi mystère, de La reine de Saba, du fantôme de l'opéra, de Chéribibi et de tant d'autres restés fameux. Il trouva même le temps d'écrire pour le théâtre, comme je l'ai dit. Toutes ses œuvres, à la fois populaires et savantes, disait Ernest La Jeunesse, ont un relief, un sens, une âme, qui se communiquent et qui saisissent. Gaston Leroux est chez tous un homme de la famille qui compte de belles histoires, qui a des relations étranges dont il nous fait part, qui a des amis très singuliers qu'il fait entrer dans notre intimité. C'est qu'en effet, il nous conduit partout où son métier de reporter l'a introduit, chez le tsar, comme nous l'avons vu, ainsi que chez Krupp. Il a de plus le don exceptionnel, il le fait dire à l'un de ses héros, de se mettre dans la peau des autres. Il est encore passé maître dans l'art des transfigurations, voire des substitutions. À lui, les fausses barbes, les grimaces, les lunettes noires. À lui, tous les masques de la vie. Et avec cela, un bon sens qui rend tout à peu près vraisemblable. C'est encore ce qu'il définit, je le cite, le bon bout de la raison, ce bon bout que l'on reconnaît à ce que rien ne peut le faire craquer. Toujours conduit par ce bon bout de la raison, il monte, démonte, remonte avec la précision et le goût d'un ancien artisan français, il a dû en avoir dans ses ancêtres, les plus subtils, les plus délicats mécanismes. Il explique tout, il justifie tout, même ce qui paraît au premier abord inacceptable. Il entraîne, il convainc, bref, il conquiert les plus rétifs. Ces héros ont leur place dans la vivante lignée des Arsène Lupin et des Sherlock Holmes, après ceux d'Edgar Poe, incontestable maître du genre.
C'était Heure de culture française, anniversaire de la mort de Gaston Leroux par Gabriel Royard. Émission diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 16 avril 1957 et que vous pourrez réécouter en ligne durant 1000 jours ou télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.